Bien. Eh ben, bonjour à nouveau. Bon, merci pour cette invitation un peu étonnante, un peu matinale. Merci au pavillon pour son accueil. Je dois dire que... Bon, d'abord, je me suis demandé pourquoi il souhaitait vraiment que je parle de créativité. Je me disais que c'était plus la place d'un artiste ici. Puis, depuis plus de 30 ans, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'à cette place-là, il y ait des artistes. Même si on est dans nos métiers férus et fervents de paroles, d'échanges professionnels, etc., c'est quand même pas la même place. Puis alors, quand il m'a annoncé que ça se passerait ici, je me suis senti vraiment... mais non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas l'endroit où l'équipe, les comédiennes et les comédiens qui travaillent avec Merci prennent la parole régulièrement autour de textes et d'auteurs. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas le faire là, quoi.
Si, puis bon, c'est possible.
Bon, c'est fait, voilà. Bon, maintenant, on y est, voilà. Donc, bon courage. Alors, je vais essayer de me situer un petit peu rapidement avant de me lancer. Moi, j'ai grandi à Perpignan. Donc Perpignan, la Catalane. Je dis la Catalane parce que je peux toujours essayer de dire le contraire. Ça fait fortement partie de mon rapport à l'identité. Mes premiers souvenirs, c'est un quartier dans lequel, très honnêtement, le français n'était pas du tout une langue majoritaire. Loin de là, les langues elles étaient méditerranéennes. Il y avait bien sûr la présence du catalan et de l'espagnol. Beaucoup de langues qui nous provenaient du nord de l'Afrique. Un peu de portugais. Beaucoup de langues qui arrivaient d'Asie via les peuples gitans et roms. C'est vraiment mes premiers souvenirs. Et mes premiers rapports à la France, je crois que c'est quand est arrivée une télévision dans le foyer. Donc j'étais plus tout à fait petit, j'étais encore très jeune, mais plus tout à fait petit. Et très honnêtement, je ne voyais pas très bien le rapport entre les images qu'il y avait dans cette lucarne et Paris ou même Montpellier et ce que je vivais, quoi. Je ne comprenais pas de quoi me parler. Et je me souviens par exemple... pour rester dans une petite anecdote, des embouteillages qui étaient sur la Nationale 9 qui traversait Perpignan, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'autoroute. Ça vous donne peut-être une petite idée de mon âge. Sur l'autoroute, elle s'arrêtait à Narbonne. Et donc, quand on voulait aller en Espagne passer ses vacances, on arrivait dans un gigantesque bouchon à l'entrée de Perpignan, qui n'avait même pas de petit périph ou de déviation. Et je voyais entassés dans leur voiture des gens qui étaient rouges, qui avaient bien chaud, qui venaient de rouler pendant des heures et des heures, qui venaient pour moi d'un pays étranger, et qui venaient de très loin et qui se rendaient vers le soleil. Et voilà, et donc tout ça c'est pour parler de mon rapport à l'identité. Et donc vous avez compris que pour ce qui était de l'identité nationale, c'était déjà raté, complètement raté d'avance, quoi. Moi, chez moi, on parlait beaucoup, mes grands-parents étaient vivants et pratiquaient une espèce de catalan un peu matiné de français, mais à peine, assez étrange. Et donc, j'avais aucune difficulté à envisager le Sud. Ça, le Sud, je voyais bien ce que ça pouvait être. Par contre, imaginer qu'il y avait quelque chose au-delà de Sals et puis petit à petit au-delà de Narbonne, ça a été compliqué pendant quelques années. Bon, j'y suis arrivé un peu plus tard, notamment à force d'études. Il a fallu bouger un petit peu de Perpignan. Et puis parce que... Notamment, j'avais qu'un seul objectif en tête à ce moment-là, c'est que je voulais être indépendant très vite, avoir un métier qui me permette de gagner ma vie. Et plutôt bien, parce que ces années 80, c'était quand même celle de la consommation un peu à outrance. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ces émissions qu'on a eues sur la crise et compagnie. Enfin, on en a reparlé récemment, mais on vivait un monde très heureux. Il n'y avait aucun problème dans les années 80. On ne voyait pas du tout ce que ça allait être que les problèmes qu'on vit aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, j'étais complètement absent de mon panorama. Et adolescent, c'était qu'une vie de bonheur, de joie, de félicité, de voyage, d'amitié, de découverte qui se profilait. Du coup, j'ai fait des études techniques qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Enfin, j'imagine que ça me sert, de temps en temps, je m'en rends compte, mais vraiment très technique, vers la maintenance industrielle, vers la gestion de production, un bac plus 3 et puis Vogue, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé à bosser. J'étais technico-commercial et j'ai installé des imprimantes qui déposent les petits codes-barres qu'il y a maintenant sur tous les produits. Et puis, en parallèle, j'avais commencé à avoir un rapport au spectacle par les activités associatives. Et notamment, avant 81, avant l'avènement de ce qu'on a appelé les radios libres, qui est une drôle de dénomination aujourd'hui, avec le recul, mais avant l'avènement de ce qu'on a appelé les radios libres, j'ai eu l'occasion de déménager plusieurs nuits les émetteurs radio, parce qu'il fallait que les planquer de ces messieurs des forces de l'ordre. Voilà. Donc, c'était une aventure assez marrante. Et on avait fini d'ailleurs par quelque chose d'assez d'assez institutionnel finalement, puisqu'un petit village à côté de Perpignan avait accueilli les activités de la radio. Donc il y avait l'antenne sur le château d'eau, on était très fiers d'être écoutés par, j'imagine plusieurs centaines de personnes. Et une autre aventure associative qui m'a marqué, c'est que donc adolescent à Perpignan, on était un petit peu frustrés de l'offre de spectacle et notamment de l'offre musicale. Pas de salle dédiée à des musiques qu'ont envie d'écouter des ados. Quoi. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on achetait des places de spectacle, en gros, on les revendait avec un bus et ça nous permettait, nous, de nous payer nos places pour aller un soir à Barcelone, un soir à Montpellier, un soir à Toulouse. Et puis on a dû arrêter parce qu'en fait ça marchait vraiment bien, ça marchait vraiment trop bien. Et donc il aurait fallu le faire très sérieusement, en fait, tenir une comptabilité, des choses comme ça, c'était pas du tout des choses qui nous intéressaient. Voilà. Et donc mon rapport au spectacle, il se construit d'abord essentiellement à travers la musique, bon, rien d'étonnant. C'est quand même l'activité numéro un des Français, en tout cas de loisir. Et puis me voilà donc un petit peu plus tard avec ce diplôme de maintenance industrielle, de gestion de production. J'arrive à Toulouse, je découvre Toulouse au milieu des années 80. Petit crochet rapide jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'une des premières salles dans lesquelles. Le premier spectacle que j'ai vu à Toulouse, c'était en 85, et c'était déjà au Lido. C'était au Lido, avenue Saint-Exupéry. Et pour ceux qui. Peut-être qui s'en souviennent, c'était le spectacle aux 1000 représentations, ça s'appelait Vidéo Clown. Et c'était un certain Christian Coumin, qui était. Pas seul d'ailleurs, mais je ne me souviens plus maintenant de son acolyte. Jo nous le dira tout à l'heure sûrement. Voilà, au milieu des années 85, Toulouse, ça se passe très bien avec ce premier emploi, mais les mois passant, ce premier emploi avec lequel alors, je gagne très bien ma vie, tout allait bien, j'avais exactement atteint les objectifs que je m'étais fixés. Je pouvais dépenser de l'argent, ce qui me faisait plaisir, voilà, en gros. Et sauf qu'au bout de quelques mois, je me suis profondément ennuyé. Je me levais avec aucune envie d'aller bosser, mais vraiment aucune. Voilà. Il y a eu une petite illusion, parce que c'est un métier avec lequel on voyage beaucoup, mais ça ne me convenait pas. Donc c'est l'époque où on pouvait s'arrêter très facilement, sans crainte aucune de ne pas retrouver de boulot par la suite. Ça a changé. Et voilà, donc j'arrête. J'arrête, je dis à mon patron que je m'ennuie, ça ne va pas. Il me regarde bizarrement, mais bon... On se quitte, et puis je pars en voyage quelques mois, super, tout va bien, et quand je rentre, je me dis qu'il va bien falloir que je retrouve un boulot à un moment, et je fais ce qu'on peut faire dans ces cas-là quand on veut retravailler rapidement, et donc je deviens barman, sans trop de difficultés à trouver des relations de travail, parce qu'en fait c'est des lieux que je fréquente beaucoup, les bars quand même. Beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. Les bars et les restaurants, ça a toujours été pour moi des lieux d'attractivité, les cuisines, les comptoirs, voilà, c'est très important dans ma vie, ça l'est toujours. Et à partir de là, moi j'estime avoir une chance un peu insolente en fait. Je ne sais pas si c'est pas le rapport avec la créativité, mais avec la chance, je le vois très bien. C'est que je me retrouve à bosser dans un lieu qui s'appelle le Griot, rue des Blanchers, que dirigeait un certain Mamadi à l'époque. Et donc, pour faire le lien avec ce qui va arriver, Mamadi, c'était le cofondateur du Théâtre de l'Acte avec un certain Michel Mathieu. Donc, on est 86-87, par là, 87. Et quelques mois plus tard, le Théâtre de l'Acte ouvre le Théâtre Garonne. Michel Mathieu et Jacques Ouaillon ouvrent la scène du Théâtre Garonne. Toute l'équipe qui bosse dans le bar de Mamadi, donc cofondateur du Théâtre de l'Acte, se retrouve à travailler au comptoir du Griot et... au comptoir du Théâtre Garonne, ou au comptoir du Théâtre Garonne, évidemment, pas les deux. Voilà. Et donc, j'arrive pour la soirée d'ouverture du Garonne, dans ce lieu, dans une salle de théâtre, et c'est une des premières fois de ma vie, en fait, que je fous les pieds dans une salle de théâtre. Comme je le disais tout à l'heure, ma culture artistique, elle est musicale, donc je connais bien le Bikini à Toulouse, je connais bien le Pied à l'Île Jourdain, je connais bien le Heartbreak Hotel à 7, le Rockstore à Montpellier, je connais bien le Bikini, celui de Barcelone, mais... une salle de théâtre, je ne sais pas très bien ce que c'est. Et donc là, je prends ce qui s'appelle une bonne gifle dans la gueule, une grosse poire même dans la gueule, en découvrant ses formes, en découvrant, je ne sais pas, Tadeusz Kantor, De Kersmaker, François Tanguy, enfin bon, ça vous paraît peut-être naturel, mais moi, je ne savais pas du tout que ça pouvait exister, ces formes-là. Quoi. Mon rapport au théâtre, il date peut-être de sortie scolaire en primaire, bon, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je découvrais là. Et puis, il se trouve que barman, c'est un métier magnifique. Hein, quand on n'a pas 30 ans, c'est vraiment le paradis. Quoi. Ça a été le plus beau métier du monde. C'était vraiment fantastique. Parce que tout le monde vous aime. C'est extraordinaire. Ouais, c'est assez merveilleux. Bah ouais. Ouais, franchement, vous êtes demandé, vous êtes vraiment très sollicité. Hein, jusqu'à... C'est assez étonnant. D'être barman dans ces lieux-là, c'est un rôle assez particulier, peut-être, vis-à-vis des artistes, des artistes que je découvre, parce qu'on est peu confident. Je joue un peu le rôle de guide touristique, mais alors guide touristique nocturne, des équipes qui sont invitées au Garonne. Et voilà, 2 ans assez merveilleux. Et puis, donc je parlais de chance un peu insolente. Au bout d'un temps, on vient me proposer de continuer à être barman dans une autre salle de spectacle qui avait ouvert à peu près en même temps. Il s'agit du Bijou à Toulouse. Donc je n'ai pas eu à me poser la question de ce que j'allais faire. On est venu me le proposer et c'était... J'ai accepté parce que ça me faisait une nouvelle aventure, voilà, tout simplement. Et me voilà embarqué pour 6 ans à l'époque auprès de Patrick Colpot et de Philippe Pagès, qui a vendu sa salle de spectacle il n'y a pas très longtemps. Et puis là, je suis barman, mais pas uniquement, parce que le lieu est quand même beaucoup plus petit, on est une petite équipe, donc on peut faire un petit peu tout. Et on me propose de m'intéresser à d'autres métiers qui sont présents dans le Bijou, autres que le bar et la cuisine. Donc Philippe me propose de l'accompagner sur des festivals, de m'intéresser à la programmation, de voir un petit peu l'envers du métier en matière de spectacle. Et ça se passe super bien. Enfin, je trouve, voilà, moi, c'est encore une fois, une chance un petit peu insolente. Et je découvre avec lui des grands festivals de chansons. Il m'amène sur des festivals comme le Chenon Manquant. Il me propose d'embarquer à Avignon. Bon, c'est épatant, quoi. Je suis avec beaucoup de plaisir. Ça a été 6 ans de fête à peu près ininterrompue. Et 6 ans de découverte encore un peu plus en profondeur du milieu artistique de cette ville, de cette région. Et puis, au bout de 6 ans, 7 ans, dans le milieu dans lequel je travaille me plaît énormément. Il y a juste peut-être un petit problème que je s'empointe, c'est que je me demande, donc là j'ai dépassé les 30 ans, je me demande si à 40 ans j'ai intérêt à être toujours derrière un comptoir. Est-ce que vraiment je me projette comme ça, quoi. Et là je me dis que, bon, non, moyennement, c'est peut-être pas très prudent pour ma santé. Je le dis carrément. Disons que, voilà, les soirées, les fiestas, les nuits de Toulouse magnifiques, les entrées dans tous les lieux superbes, peut-être une consommation d'alcool un peu abusive, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a fait réfléchir à l'époque, quoi, je le dis simplement. Et donc, qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie? J'ai découvert l'envers du métier, je le disais, dans la production de spectacles. Je me dis, je vais me lancer, donc... on a droit à des tas de possibilités en formation avec un accès assez facile. Et je me retrouve à la fac à Bordeaux, enfin, pas exactement à l'université, c'est un IUT. Et je me retrouve confronté pour la première fois à l'université. Je ne voyais pas très bien ce que c'est. J'entends parler de philosophie, je ne voyais pas très bien le rapport avec le spectacle. Mais bon, voilà, ça se passe, et ça se passe assez bien aussi. Et me voilà doté d'un diplôme universitaire, je me refais un plaisir de m'arrêter dans ma vie, de poser un break. Donc je me pose un break d'un an, je décide d'arrêter de travailler, ou du moins de travailler que très ponctuellement à des choses qui me font plaisir. Et puis pendant ce break, je commence à rencontrer des gens qui font par exemple, qui ont envie de construire une saison culturelle à Billac, un petit village au sud de la Corrèze. Donc, je me lance dans cette aventure, ça m'occupe quelques mois. Et puis en même temps, je me dis, il va quand même falloir penser à travailler pour de bon. Et donc, je reste dans le circuit que m'a présenté Philippe. Je me retrouve embauché par l'équipe du Chenon Manquant, qui à l'époque était un gros festival installé à Cahors. Et puis voilà, me voilà embarqué dans cette aventure pendant un peu plus de 10 ans. Et qu'est-ce que je découvre dans cette aventure de nouveau pour moi par rapport au monde du spectacle? C'est tout ce qui est relatif à l'action culturelle, à l'éducation artistique, quoi. Et enfin, tout ce qui se passe à côté des représentations, en fait. Ce qui, pour moi, est très nouveau. Jusqu'à présent, pour moi, le spectacle, c'est quand même cette question de confronter un public et des artistes, et puis le plaisir que ça peut procurer, quoi, l'émotion intense qu'on peut ressentir. Cette espèce de communauté qui peut se créer pendant un spectacle, c'est ce qui me faisait vibrer, qui continue à me faire vibrer d'ailleurs, encore aujourd'hui, heureusement pour moi. Mais ça se limitait à ça. Je voyais pas du tout, j'imaginais pas du tout qu'on puisse construire des rapports entre des artistes et des publics en dehors de ce qui était la confrontation à l'objet artistique, quoi, pendant le temps de la représentation. Et donc ça, c'est un truc très nouveau pour moi qui consiste à, je sais pas, essayer de comprendre ce que c'est de comprendre ce que c'est comme territoire, c'est de monter des partenariats, enfin trouver tous les moyens possibles et imaginables, faire en sorte que cette parole de l'artiste qui m'est chère puisse parvenir à des publics, tant de représentations ou pas tant de représentations. Et puis ça se passe là aussi d'une façon assez heureuse, même s'il y a des difficultés, parce que c'est une boîte qui a une santé économique assez fragile, une structure, une association qui a une santé économique assez fragile. Et puis l'autre plaisir, c'est que c'est une place très, très particulière de bosser pour cette association, parce qu'on doit organiser une programmation qui va s'adresser à d'autres responsables de programmation. Je vais me reprendre parce que je pense que ce n'est pas très clair. Le Chenon Manquant, c'est un festival qui appartient à une asso qui est un réseau, de structures de spectacles à travers toute la France. Il y avait à l'époque à peu près 150 salles qui devaient être adhérentes de ce réseau. Et donc nous, notre objet en tant que salariés, c'était de construire la programmation du festival qui allait s'adresser à ce réseau, qui allait s'adresser aux responsables de programmation de ces salles. Et on ne gère pas de lieu, nous, en direct. En dehors du festival, on n'a pas d'autres programmations à gérer. Et du coup, on a un temps fou et on est payé pour aller voir des spectacles. C'est assez génial. On n'a pas tous les embarras de gérer un lieu, de s'occuper de sa tenue au quotidien. Enfin, les embarras. À l'époque, ce que je considérais comme des embarras. Et je suis embarqué comme ça pendant des années à voir, je sais pas, 200, 300, jusqu'à 400 spectacles certaines années. C'était boulimique et là aussi énormément de plaisir. D'une façon tout à fait pluridisciplinaire. Et un petit peu à l'international aussi. Des promenades dans un réseau francophone. Belges, québécois, des constructions avec l'Espagne, des constructions avec la Tunisie. Voilà, une dizaine d'années comme ça, vraiment, encore une fois, pour moi, c'est une chance que je qualifierais à nouveau d'insolente. Et donc, qu'est-ce que je fais de ce chaînon et de ces projets d'action culturelle ? Je construis des programmes, et notamment, peut-être pour essayer d'illustrer ça, on s'embarque dans l'idée, avec des collègues sur le territoire. Donc nous étions à Cahors, puis on a déménagé à Figeac, on se retrouve dans un nouveau territoire, on se dit comment on va l'appréhender. Donc avec des collègues qui travaillaient juste de l'autre côté du Lot, à Cap-de-Nac-Gare, avec des agences, celle du Lot, celle de l'Aveyron, on part vers l'idée qu'un artiste pouvait travailler pendant 2 mois sur un territoire à travers sa discipline artistique et rencontrer des publics. Et on part vers ce qu'on a appelé une résidence compte de territoire. Et ça a été une expérience qui m'a beaucoup marqué, dont je garde d'excellents souvenirs. On a travaillé avec des artistes comme Jean de Ferron, Jérôme Binot, Gigi Bigot. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, mais voilà, ce sont des gens qui ont des cœurs gros comme ça et qui allaient à la rencontre de publics très différents, dans les écoles, dans les maisons de retraite, dans des villages. Et vraiment 2 mois au quotidien de présence sur un territoire. Des projets qui étaient assez longs à construire et qui nous rapportaient vraiment énormément de plaisir et d'humanité. En fait, Eloa m'a fait signe que ça fait déjà un petit moment que je pars. Je ne sais plus très bien ce que ça donne comme époque. Là, maintenant, on doit être en 2000 et quelques, 2008, 2007, 2008. Je me dis que 10, 11 ans, c'est déjà beaucoup dans la même structure. Mais j'ai un peu de mal à la quitter. J'essaie de postuler à droite à gauche à des choses qui pourraient m'intéresser. J'essaie de devenir directeur, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, mais ça bloque. Donc je me dis qu'il faut que je me dote d'autres atouts, et à ce moment-là, je me dis que sans doute un nouveau niveau de diplôme me permettra de continuer à avancer. Donc à l'époque où il y a les congés individuels de formation, ça existe encore, ça, heureusement, et je me vois là à l'université à Grenoble, à l'Institut d'études politiques, pour un master européen de direction de projets culturels. Voilà, en face de l'extrême légitimité institutionnelle des politiques publiques à la française, avec des rencontres extraordinaires et quelques bons coups de gueule aussi, quoi. Donc ça, c'est géré par ce qu'on appelle l'Observatoire des politiques culturelles. Et pour moi, ça n'observe pas grand-chose, en fait. Ça observe ce que connaît l'État, donc ce qui est très légitime, et ça observe un peu l'émergence qui est à la marge pour se donner un peu de crédit et de légitimité. Mais au milieu, c'est-à-dire les 80% de l'organisation de la culture sur notre territoire, ils n'ont pas la moindre idée de comment ça marche. Donc bon, on est un peu en confrontation, parce que moi, c'est exactement le contraire que je fais depuis des années. Donc, ouais. Mais bon, ça me permet quand même d'avancer, de rencontrer beaucoup de gens, d'étoffer un carnet d'adresses, parce que nos métiers, comme d'autres, fonctionnent beaucoup avec du carnet d'adresses, et de rebondir. Donc je quitte le chaînon et je me retrouve à Villeneuve-sur-Lot, avec des contrats de travail, bon ça c'est juste pour l'anecdote, avec des contrats de travail signés par monsieur Jérôme Cahuzac, qui allait devenir... Ouais, qu'est-ce que vous voulez, ça me fait deux petits collecteurs de contrats de travail dans ma vie. Voilà. Et puis, alors ça, c'est une embauche. Alors, pas, je vous parlais de chance tout à l'heure, mais alors ces entretiens d'embauche, je m'en souviendrai. Je suis dans un petit bureau à la mairie de Villeneuve-sur-Lot avec l'élu à la culture, Christine Mourgue, et un directeur des affaires culturelles, Dominique Monnoyeur. Et ils me disent, voilà le budget du théâtre. Je fais, ah ouais, quand même. Pour une ville moyenne, c'est un budget vraiment conséquent. Ce qu'on vous demande, c'est de l'utiliser pour aller chercher de nouveaux publics. C'est-à-dire que l'analyse qu'ils avaient faite, eux, c'est que ce budget sert surtout à acheter des têtes d'affiches, du vu à la télé, je caricature, mais pas tant que ça. Et donc, bon, c'est un théâtre qui, classiquement, on l'imagine dans une ville moyenne, compte énormément d'abonnés parce que ce sont des artistes connus, mais finalement tourne sur un public très homogène, très restreint finalement. Ces abonnés remplissent la salle régulièrement, et donc ce théâtre est très peu ouvert sur son territoire. Et ce qu'on me demande, c'est de l'ouvrir et d'aller chercher de nouveaux publics. Et alors, ça tombe bien, c'est ce que j'adore faire depuis un moment. J'ai vraiment un budget important, j'ai une grande équipe, j'ai un lieu assez légitime. On y va, et ça va durer à peu près 5 ans, avec de très belles aventures également, avec une difficulté que je n'avais pas vu venir par contre, c'est qu'en travaillant à l'ouverture du théâtre, en travaillant à faire rentrer de nouveaux publics, je vais déposséder le public qui était chez lui, dans ce lieu-là, de son seul marqueur en fait, identitaire du territoire. Il faut imaginer le Lot-et-Garonne et un coin du Lot-et-Garonne. Alors, le Lot-et-Garonne, c'est le seul département d'Aquitaine qui perdait de la population à l'époque. Et Villeneuve-sur-Lot et ce coin du département, c'est le coin le plus pauvre du département. Donc c'était c'est comme ça, la circonscription la plus pauvre. Et du coup, pour un certain public, on peut qualifier de bourgeois si vous voulez, pour faire vite, le théâtre, c'est le seul lieu dans lequel ils se retrouvent en fait. C'est leur seul lieu, c'est le seul lieu dans lequel il y a quelque chose pour eux qui relève d'une certaine appartenance sociale, où ils peuvent se retrouver et se reconnaître. Et du coup, je n'ai pas du tout travaillé cet aspect-là, moi, psychologique du lieu. J'ai vraiment travaillé qu'à l'ouverture. On a fait énormément de travaux de projets d'action artistique, d'action culturelle avec des associations d'insertion. On a sorti le spectacle dans la rue, on a monté, je ne sais combien de dispositifs différents d'éducation artistique, mais je n'ai pas du tout pensé à cette chose-là que, effectivement, du coup, ce public singulier qui était chez lui allait se retrouver un peu, entre guillemets, rejeté. Et un jour, physiquement, ça s'est concrétisé, ça. On avait invité un spectacle qui s'adressait... Enfin, c'est pas vrai qu'il s'adressait, mais... en tout cas, dont le sujet était les personnes en grande difficulté sociale. Et donc autour, il y avait tout un dispositif d'action culturelle avec des associations d'insertion du territoire. Et on avait ce soir-là les publics de ces associations d'insertion, dont beaucoup, évidemment, n'avaient jamais... Enfin, évidemment, en tout cas, il se trouve que beaucoup n'avaient jamais mis les pieds au théâtre. Et donc, physiquement, dans la salle, il y avait l'abonné, enfin, je sais pas, l'image de l'abonné classique, traditionnelle, et à côté, quelqu'un qui, effectivement, quand on voit arriver comme ça, qui se trouve à l'opposé socialement du spectre social, quoi. Et ce soir-là, il y a eu une espèce de tension, mais quelque chose de vraiment très fort qui m'a choqué, parce que dans nos métiers, on travaille quoi ? On travaille quand même essentiellement à faire du lien social, on travaille à faire se rencontrer les gens, on se dit que c'est porteur, que c'est ça qui va nous faire avancer. Et ce soir-là, l'histoire du lien social, alors là, ça a été... C'était pas du lien, c'était du repoussoir social, vraiment littéralement. Et à la sortie, on a vu vraiment des gens qui découvraient le théâtre et qui venaient de voir une pièce qui s'adressait à eux, donc qui étaient émerveillés, comme on peut l'être, comme ça nous est tous arrivé devant une pièce, enfin de découvrir quelque chose, un acte artistique fort. Et à côté de ça, on a vu le public qui était chez lui jusqu'ici, qui est parti en courant, j'exagère, mais qui fuyait presque devant cette situation, quoi. Et au final, ces 5 années à Villeneuve-sur-Lot, ça a été une aventure extraordinaire. Mais je suis resté sur cet échec, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment on est vraiment allé chercher de nouveaux publics. On a vraiment ouvert les murs. On a monté de super projets. Mais cette difficulté-là, ce nœud-là est resté. C'est-à-dire que celui d'essayer de faire vraiment communauté entre des gens qui s'étaient appropriés le théâtre et de nouveaux publics, finalement, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, bah, ce théâtre, il est de nouveau devenu ce qu'il était, c'est-à-dire un lieu qui est caricaturalement un lieu d'abonnés jusqu'à l'extrême, quoi, et fermé à toute une partie de la population du territoire. Et qu'est-ce qui se passe là ? Eh ben, il se passe qu'un certain Joe Martinez part à la retraite, que ce lieu qu'il dirige jusque-là, la Grainerie, moi je l'avais croisé quelques fois, mais pas vraiment plus que ça. En fait, j'avais commencé à travailler avec une équipe qui s'appelle la Compagnie d'El, qui a ses locaux à la Grainerie, donc une équipe de cirque, une équipe de, quelque part entre le cirque, le théâtre, mais une équipe de cirque. Que j'ai été voir ses travaux assez régulièrement, donc c'est comme ça que j'ai approché le plus souvent la Grainerie. Et puis, je me dis qu'il est peut-être temps, après tout, de tenter une aventure artistique différente. Donc ça, c'est très récent, hein, c'est en 2013, c'est tout neuf. Et c'est l'aventure artistique dans laquelle je m'inscris aujourd'hui, qui est pour moi très nouveau dans le sens où c'est la première fois que je suis attaché à une discipline, alors que j'avais vraiment défendu mordicus l'aspect pluridisciplinaire de nos métiers. Donc il y a pour moi quelque chose de très différent là, qui a une histoire de communauté artistique attachée à cette discipline, quelque chose de très fort et d'assez nouveau pour moi aussi. On parle parfois dans notre métier, dans notre jargon, de filière, mais ça a une réalité. C'est-à-dire que vraiment ce territoire, entre l'aventure de l'école, du Centre municipal des arts du cœur de Toulouse, de la fabrique et la Grainerie, l'existence du pôle national à Auch, pas très loin, son importance. Il y a vraiment quelque chose qui existe à ce niveau-là, qui est très riche, très porteur. Aujourd'hui, avec la grande région, bon, il y a notre pôle national cirque à l'Est, avec qui on travaille aussi avec beaucoup de plaisir. Moi, je suis en plein dedans, là. C'est beaucoup de bonheur. C'est un lieu extraordinaire, ce Grainerie, dans le sens où le nombre de dynamiques qui s'y croisent au quotidien, ça me ramène à cette histoire de lien social d'une façon très, très, très forte. C'est-à-dire que c'est très facile, très courant de croiser et un groupe qui est inscrit dans un dispositif d'éducation artistique, d'action culturelle qui arrive de je ne sais le quartier de Toulouse, et un groupe, je ne sais pas moi, d'ingénieurs d'une entreprise qui vient faire ce qu'on appelle de la cohésion d'équipe. Au milieu, il y a cet espace de travail qui peut fonctionner en même temps, à différentes étapes de la création. C'est d'une richesse impressionnante. Voilà où j'en arrive aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si j'ai dit ce que je voulais, ce que j'avais imaginé dire. Je ne pense pas, d'ailleurs. J'en sais rien. Mais ça doit faire à peu près 20 minutes. C'est ça. Voilà. Merci de votre écoute.